fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août, dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sangle lourd dans le jardin, un sourd reproche dans la brise? Ah, ne m'éveillez pas trop tôt, rien qu'un instant de belle contour. Le désespoir démobilise, le désespoir démobilise. Il me fait un instant sembler entendre au milieu des blés confusément le bruit des armes. Ni le yé, ni le romarin n'ont gardé le parfum des larmes. J'ai perdu, je ne sais comment, le noir secret de mon tourment. À son tour, l'ombre se demande. Ouais, je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre. Dans tes bras, au dehors quelqu'un murmura une vieille chanson de France. Mon mal enfin s'est reconnu, et son refrain comme un pied nu troubla l'eau verte du silence.
Bonjour à tous. À Fabien d'abord. qui panique pas quand je suis en retard. Merci de ta bienveillance, Fabien. Et salut les amis, Pépé, Scarlett, Corinne, Jeff, comme d'habitude, Essia et Camilla. Et aussi exceptionnellement à Delphine, Sam et Igor qui sont à Toulouse. Bon anniversaire, mon Igor. Voilà, on va démarrer. Tranquillou. Eh bien oui, le monde change. Le climat aussi. C'est vraiment un peu inquiétant. Aviez-vous déjà vu l'éclat des feuilles dorées, des chênes blancs sur la Fage au mois de décembre ? C'était splendide, mais surprenant. Des roses aussi ont éclos sur les vieux rosiers grimpants sur la façade de la maison, pour la première fois à cette période de décembre. J'ai revu avec plaisir quelques blaireaux à la tombée du jour qui se dandinaient. Ça faisait longtemps qu'ils se cachaient, que je ne les avais pas vus. Voilà, ils sont planqués dans d'interminables galeries, évidemment, à cause des chasseurs. Par contre, on dirait que les oiseaux ont déserté. Trop de vent, peut-être. Ou trop de chasseurs. Enfin, c'est une étrange période que nous vivons. Un jour, on va accepter de vivre l'été en hiver. Et de toute façon, la tempête de plus en plus souvent. Et des nuits entières violentes comme on en a déjà eu. Alors, il paraît que le gouvernement a inventé un dispositif novateur, expérimental, pour savoir comment vivre, disent-ils. Bon, c'est ambitieux et novateur, non ? C'était pas qu'une idée en l'air pour oublier les transformations du monde. Mais que vont-ils nous proposer pour oublier la peur, les changements, l'oubli de notre légèreté et l'impatience qu'on a toujours. Et puis, il y a notre violence, le refus des autres. Et la politique intolérante, l'égoïsme aveugle. Ah, ça va être difficile bientôt, encore plus que d'habitude, parce que tout d'un coup, les autres nous gênent. Vous voyez où cela nous mène ? On refuse de partager, surtout quand on a beaucoup de chance. Et à force de refuser l'autre, c'est la course au pouvoir et l'inégalité qui se creusent. Et l'inégalité crée les guerres. Voilà, l'insupportabilité des plus nantis qui n'ont jamais assez et refusent tout. Et surtout les pauvres qui les dérangent, même quand ils travaillent pour eux, pour une misère. Les temps changent et l'homme, pourtant, n'a pas l'air de changer. C'est un animal fat. Tellement content de lui qu'il en oublie l'égalité, la fraternité, la liberté. Je mélange tout, mais c'est comme ça que c'est présenté quand même. Le partage. Mais ce qu'on craint, c'est la guerre qui démarre partout, qui démarre en Ukraine, qui démarre en Palestine. A-t-on jamais vu une guerre des animaux ? La même race les uns contre les autres ? Il n'y a que les hommes pour faire ça. Quelle étrange spécificité. Et surtout pas de quoi être fier. Ce serait donc une invention des hommes comme le saccage gratuit de la terre, pour du profit, mirobolant, créé par le travail des autres hommes moins chanceux, qui n'en profitent pas d'ailleurs. L'homme exploite tout ce qui nous est offert sur la terre. Même ses frères. Et tous en partage, ce qui nous amène aux guerres, aux famines, aux bouleversements, tout genre, voilà, on y est. Alors stop, il faut stopper, mais comment peut-on ? Maintenant, au lieu de rester engourdi dans notre aisance, eh bien, il faudrait peut-être restaurer la révolution. Musica.
Il manque un temps à j'ai compris, il me manque toi, mon alter ego. Tu es parti, mon ami, tu m'as laissé seul ici, mais partout tu me suis.
Jean-Louis Aubert avec le titre Alter Ego sur les ondes de Radio Escapade. Vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Bon les amis, on va faire un tour dans la mare aux canards. Ça faisait un petit moment. Alors je vous livre quelques articles qui m'ont réjoui. Enfin réjoui, façon de parler. Logotomie à Pôle emploi. La dernière offre de Pôle emploi fait un carton. Nom de l'émission, Créaton. Durée du contrat, 2 jours. C'est un peu juste, hein. Objectif, créer le logo de France Travail. Rémunération, mystère. Alors que le nom de l'enseigne doit basculer en janvier 2024, du ringard Pôle emploi au révolutionnaire France Travail, vous parlez d'un changement, on se demande ce qui leur prend tout d'un coup. Surtout que France Travail, c'est encore plus moche que Pôle emploi. L'opérateur public a rassemblé une armée de talents pour imaginer une nouvelle signalétique. Une quinzaine de graphistes et chargés de com, volontaires, ça veut dire pas payés, ont été recrutés en interne les 10 et 11 novembre pour agiter leur ménage. Ex-attaché de presse de l'Élysée, proche d'Emmanuel Macron, Pauline Calmès, directrice de la com, a posé une condition, œuvrer dans le plus grand secret. Voilà, c'était secret jusqu'à aujourd'hui, hein. Et sans, enfin jusqu'à ce que le canard l'annonce. Et sans faire fuiter la présence de l'agence de pub The Good Company, au slogan tout désigné « Business for good is good for business », eh bien évidemment, c'est encore eux qui vont ramasser. Pardon pour l'indiscrétion. Réunis au siège, à l'étage de la direction, les créateurs ont planché une journée sur une image à dominante bleu-blanc-rouge, comme c'est original. Le lendemain, jour d'armistice, un jury très sélect s'est déplacé pour juger le résultat, enfin pour juger du résultat plutôt. Parmi ses membres, il y avait Jean Bassière, le directeur général de Pôle emploi. Il y avait Thibaut Guilly, le futur directeur de France Travail. Pourquoi futur ? Il n'y en a pas actuellement. Et Thibaut Romanet, pour représenter le ministère du Travail. Mais Pôle emploi ne choisira son nouveau logo qu'après le vote de l'Assemblée du personnel, lequel déterminera les projets à soumettre au ministre. Tout ça pour ça ? Enfin, en 2019, Le Canard avait relevé le coût de création du logo Pôle emploi par une boîte privée. Ça avait coûté 500 000 euros. Et le montant total du toilettage avec mise en place de la nouvelle identité visuelle sur les supports de la communication et dans les agences avait été chiffré à 2,4 millions d'euros. Bon, ben voilà, ça coûtera rien cette fois, mais ça coûtera certainement les 2 millions et quelques pour installer cette nouvelle communication. Oh, l'État, enfin le gouvernement sait travailler, ça c'est sûr. Avec ses copains. Alors, on continue, parce qu'il y a des mines dans ces canards. La malédiction du grand hamster. Ça m'avait intriguée, par le titre, bien sûr. Alors, connaissez-vous le grand hamster d'Alsace ? C'est un rongeur XXL. C'est un véritable cauchemar pour les industriels du sirop de maïs. Depuis que dans la plaine d'Alsace, on a planté massivement du maïs, qui représente désormais 80% des cultures, quelle horreur, ça veut dire que c'est l'unité de culture, c'est complètement débile, l'espèce a quasiment disparu. En 2019, l'Union internationale de la conservation de la nature a déclaré en danger, critique d'extinction, ce fameux grand hamster. Et sur les 244 000 hectares de son ancien territoire alsacien, il ne reste plus qu'un millier de grands hamsters. Il en faudrait au moins 1500 pour assurer la survie de la bestiole. Bon, il y a 12 ans déjà, la France s'était fait condamner par la Cour de justice de l'Union européenne pour défaut de protection suffisante du grand hamster. Menacé d'une amende salée, le gouvernement avait aussitôt oublié de dégainer un arrêté interdisant de planter du maïs dans un rayon de 600 mètres autour des terriers. Ben non, vous rigolez, c'était impensable pour les paysans qui avaient alors convaincu les maires des communes concernées de saisir le Conseil d'État, lequel avait conclu un excès de pouvoir, etc. C'était ensuite un nouvel arrêté de protection du grand hamster farci de dérogations. Donc le pauvre hamster avait bien du mal à se nourrir. Et en 2022, l'association Sauvegarde Faune Sauvage a de nouveau porté plainte auprès de la Commission européenne, cette fois, contre le département du Haut-Rhin. Selon l'association, plutôt que de s'attaquer au cœur du problème en rabotant les surfaces de maïs, ce dernier donne le change en relâchant chaque année dans la nature des hamsters d'élevage. Ben évidemment, ils meurent tous, alors ils en remettent, mais ça fait illusion un certain temps, mais pas définitivement. Alors non seulement les nouveaux venus périclitent eux aussi, mais la population réelle, enfin la population sauvage en tout cas, se résume désormais à une quarantaine d'individus, parce que ce sont tous des hamsters de fabrication, si vous voulez, de créer comme ça dans des boîtes presque. Au fait, pourquoi le maïs fait-il tourner de l'œil un grand hamster ? Bah, tout simplement parce que lui, qui se nourrissait de luzerne et de blé, n'a maintenant plus que du maïs à becter et que ça lui bousille le cerveau. Alors, méfiez-vous, hein, mangez pas trop de maïs. Deux chercheuses du CNRS de Strasbourg, spécialisées dans la physiologie et la nutrition animale, ont en effet montré que les femelles nourries exclusivement aux grains de maïs devenaient zinzins au point de dévorer les trois quarts, même plus que les trois quarts, 95% de leur progéniture. C'est terrible de quoi relancer le débat sur les effets délétères du sirop de maïs, dont l'agroalimentaire use et abuse comme substitut bon marché au saccharose. C'est-à-dire qu'il remplace le sucre comme ça. L'an dernier, plus de 2 millions de tonnes de cette cochonnerie ont été consommées en France. Il ne faudrait pas que notre santé soit la dernière roue du hamster. Moseka.
Ça fait bientôt 20 siècles qu'ils cherchent la terre promise. Ça fait bientôt 20 siècles et ça fait trop longtemps. Oubliez que ça fait bientôt 20 siècles et tant de morts pour rien. Et toute cette souffrance, on s'en est lavé les mains.
Nino Ferré, je vous dis bonne chance sur les ondes de Radio Escapade. Vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Ah ben bonne chance, on en a besoin. On en a besoin tous, je crois. Bon, je continue par un petit article du Canard qui m'a amusé. Un dévendeur est caché dans le paysage. Monsieur, ce Christophe Béchu est un dangereux révolutionnaire. C'est qui ? Le ministre de la Transition écologique. Rien que cette expression, transition écologique, ça sent le gauchiste. Il a signé dans Le Monde une tribune contre le Black Friday. Quoi, ce jour de fête inventé par les Américains ? Moi, j'adore les promos. Je fais toujours les soldes. Il prétend que cela participe d'un modèle de surconsommation insoutenable pour la planète. Ah, la planète à bon dos. Monsieur, avez-vous vu les 4 spots qu'il a fait passer à la télé ? C'est un scandale ! On y voit un dévendeur qui conseille à un client de ne pas acheter un polo bradé 70% moins cher. Si vous avez besoin que je vous conseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète et vos placards. Vous vous rendez compte ? Un dévendeur ! Mais si on arrête de vendre et d'acheter, ben oui, ce sera la décroissance, la fin de tout. Exactement ce que lui ont dit les organisations patronales. Le MEDEF et tous ceux qui luttent chaque jour pour faire tourner l'économie française. Un membre du gouvernement qui se met à prôner la décroissance. Même le ministre Bruno Le Maire ne s'est pas gêné pour dire son fait à son collègue Béchu. Il a affirmé que c'était maladroit et pas très sympa et pire, culpabilisant, et qu'avec ces spots, on se met à dos tous les petits commerçants. Ah, ce Le Maire, j'ai toujours su qu'il avait de l'envergure. Mais Béchu a tenu bon. S'il a concédé que ce spot relevait de la maladresse, il a refusé d'en stopper la diffusion. Et dans sa tribune au Monde, le 24 novembre, il écrit même « Et j'assume de porter depuis 500 jours au gouvernement une politique d'incitation à une révolution des pratiques de producteurs et de consommateurs vers un usage plus raisonné des ressources de la planète. » Eh oui, un usage plus raisonné des ressources de la planète. C'est une révolution. Il emploie le mot « révolution ». Que fait la police ? Il dit qu'il faut retrouver la sobriété d'antan, se remettre à réparer les appareils au lieu de les jeter. Nos grands-parents n'étaient pas dans la décroissance. Ils avaient un juste rapport aux choses et à leurs valeurs. Retrouvons cette sagesse et cette mesure. Mon grand-père me disait souvent que « Monsieur, comment pourrions-nous aller de l'avant en regardant en arrière ?» Juste au moment où le président Macron engueule les patrons et leur dit de se réveiller, de créer de l'emploi, de pousser la croissance vers le haut, vers ce que Béchu vante de la pro... voilà ce que Béchu vante... La... Voilà, j'y arriverai pas. Voilà que ce Béchu vante la sobriété. Comme le dit le haut conseiller de l'exécutif dans Le Parisien, voilà qui est incohérent avec notre ligne d'écologie pragmatique. Pragmatique ? Qu'entend-il par là ? Ben, ça veut dire que l'écologie, ça doit passer après le reste. Et voilà pourquoi on n'avance pas. Moseka.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
« The Revolution Will Not Be Televised, c'est Gilles Scott Aaron sur les ondes de Radio Escapade. Vous écoutez Didi en compagnie d'Isabelle.
Bon alors les amis, je vous avais déjà parlé de ce Béchu la semaine dernière, mais il faut savoir absolument ce qui nous arrive parce qu'on est en train de partir de Traviole ou de se cacher les yeux et voilà. Alors je voudrais vous parler aussi, toujours dans la même veine, du FN. Parce que depuis qu'il est arrivé masqué en France, il fait des adeptes qui croient à leurs mensonges. Alors s'il vous plaît, sachez que le FN du Parlement européen n'est pas le même que celui de l'Assemblée nationale. Ici, Marine Le Pen arrive masquée parce qu'elle souhaite être présidente de la République. Vous l'avez tous remarqué quand même. C'est pourtant un sujet qui devrait nous chatouiller. Alors, quand on discute une proposition de la Commission européenne pour lutter contre les pénuries de main-d'œuvre pour attirer sur le vieux continent des talents d'Afrique du Nord, quel talent s'emporte l'élu RN ? Et puis, non, merci, et je passe les insultes. En France, les élus s'évertuent à offrir un autre visage quand ils ne sèchent pas, ce qui est le plus fréquent. Sécher, ça veut dire qu'ils ne sont jamais... sont jamais à la aux rencontres politiques, évidemment. Ils sont pro-russes, ils sont anti-ukrainiens, ils sont anti-écolo, sachez-le, ils sont anti-homo aussi, et anti-droits des femmes. C'est intéressant, non? Alors, réfléchissez bien avant de les croire comme ça, angéliques et formidables. Un exemple, à la rentrée de l'hémicycle Noir de Monde, tout le monde vient écouter les propositions de la présidente de la commission pour les 300 prochains jours. Eh bien, la plupart des lepénistes avaient tout simplement séché, à commencer par Jordan Bardella, future tête de liste aux élections européennes. Personne n'est venu, ils s'en foutent du peuple une autre fois, peut-être ils viendront. Ils ont aussi refusé de se lever et refuser d'applaudir un militant pro-ukrainien. Par contre, ils sont très sages devant Elisabeth Borne. Ils se méfient un peu, ils essayent d'être dans ses petits papiers. Voilà, le RN version Parlement européen est très différent du RN version Palais Bourbon. Ça montre les faux-semblants de la stratégie de dédiabolisation mise en œuvre par Marine Le Pen. Elle a quand même été intronisée en 2011 et elle est toujours là. Cette supposée normalisation de son parti est juste cosmétique. Les deux grands piliers idéologiques du RN, c'est le nationalisme et le populisme. Mais le RN est un clan, c'est pas du tout quelque chose de très ouvert, parce que dans ce clan, il y a le beau-frère de Marine, le mari de sa sœur, le père de l'ex-compagne de Bardella. Il y a aussi les copines d'enfance et les cousines et la fille du cofondateur du FN et une poignée d'élus mis en examen d'ailleurs dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen pour recel et détournement de fonds publics, pour vous présenter les hommes intègres qu'ils sont. J'espère que je vais en faire changer d'avis quelques-uns quand même. La plupart ne participent pas au travail législatif et aux négociations des commissions. Certains n'y mettent même jamais les pieds. Ils se rendent juste aux plénières pour les votes. Par contre, ils postent leur prise de parole sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour eux, le travail du député, c'est d'être sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout d'être ni au Parlement ni au gouvernement. Alors le Parlement européen leur sert de tribune pour leurs ambitions françaises, mais leurs bureaux à Bruxelles ont la réputation d'être complètement vides. Où sont-ils ? On se demande. Bon, par exemple, Bardella, il est payé quand même 9 800 euros, plus 4 700 d'indemnités de frais généraux, plus à peu près 400 d'indemnités journalières. Chaque fois qu'il se présente... il a droit à 400 euros. C'est quand même formidable. Alors avec ce salaire, il est membre de la commission des pétitions qui est la moins active de tout l'hémicycle et il n'y est jamais venu. Jamais venu. Il y a comme ça beaucoup d'hommes politiques qui ramassent le salaire mais ne viennent jamais ou quasiment jamais. Alors fondamentalement, ce qui caractérise le RN, c'est une hostilité profonde à la construction européenne et au principe de la démocratie libérale. Cependant, leur politique étrangère demeure alliguée, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment accrochés à Vladimir Poutine et au Hongrois illibéral Viktor Orban. Il n'y a pas longtemps encore, ils étaient pro-Poutine, mais depuis, ils ont choisi la neutralité parce que se sont opposés l'aide financière. Enfin, non, parce que ça les dérangeait, enfin, ça les mettait de côté. Ils se sont cependant opposés à l'aide financière de l'Ukraine, pour l'Ukraine. Ça veut dire qu'ils sont quand même toujours pro-russes. Les lepenistes sont plus souvent sur les plateaux de télé qu'en commission. Ils ne viennent quasiment jamais. Parfois, on en aperçoit un se faire filmer par un assistant parlementaire et puis ils repartent aussitôt tous les deux, celui qui a été filmé et celui qui a filmé. Voilà, l'argent qui s'envole. Donc, les élus RN ont déposé une motion de rejet des 10 textes d'un coup. De 10 textes d'un coup. Et c'est plus facile pour eux que de tout refuser, que de venir défendre chaque texte surtout. Ils ne proposent jamais de solution aux problèmes qu'ils dénoncent. Ils ne cherchent pas à les régler car ils ont besoin des problèmes pour demeurer et prospérer sur le plan électoral, que ce soit sur l'écologie, le renforcement des pouvoirs de l'Europe, l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations sexuelles. Le Rassemblement national oppose toujours un veto, c'est-à-dire qu'ils disent ni oui ni non, mais ils disent on se prononce pas, ce qui est quand même une drôle de façon d'essayer de gouverner. C'est ainsi que la vingtaine de textes présentés en 5 ans sur les questions de démocratie, d'état de droit ont été rejetés, de même que ceux sur l'environnement et la biodiversité. Ça ne les intéresse pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut quand même réfléchir à ce qu'on entend et à ce qui se passe. Ils se sont abstenus de voter contre 31 fois à peu près. Et même, ils se sont abstenus sur la restauration de la nature. Vous imaginez ? Ils prennent position sur rien du tout. Et ils croient que comme ça, ils vont pouvoir attraper plein de gens parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Et en plus, un seul texte sur l'égalité homme-femme n'a trouvé grâce à leurs yeux. Ils votent contre toujours. Il faut que ça se sache. Pas un seul texte. Voilà, Marine Le Pen retoque et refuse toujours les textes qui renforcent les droits des femmes. Ce qui est quand même incroyable. Elle est contre les mesures, innovantes. J'ai parlé de la loi sur la restauration de la nature qu'elle refuse aussi. Elle refuse l'égalité homme-femme. C'est quand même dingue. Elle est contre les mesures supplémentaires pour faire face au hasard sexuel. Au harcèlement sexuel. Elle est contre la reconnaissance des unions de même sexe et elle s'est abstenue également sur l'égalité de rémunération homme-femme. Tiens donc, elle s'en fout, elle est bien payée. Refus aussi de la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Et sur les droits de l'homme, le Parlement européen vient de donner le prix Sakharov au mouvement Femmes, Vie, Liberté à Mahsa Amini, vous le savez, cette jeune iranienne qui a été tuée en septembre 22 pour un voile mal ajusté. Eh bien, le FN, lui, s'est prononcé contre ce désir de reconnaître cette femme qui a quand même eu un destin horrible, ne serait-ce que pour défendre sa liberté. Ben, le FN, il s'en foutait. Lui, il voulait le nommer Elon Musk. Vous voyez, ça vous donne une petite idée des intérêts de ce parti. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça suffira pour qu'on n'ait pas envie de les avoir au gouvernement, en tout cas. Moseka.
Les Berruriers Noirs, la jeunesse emmerde le Front National. Vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Bon, t'as pas laissé la fin du morceau, là. Bon, on le réécoutera de toute façon, une fois ou l'autre. Je voulais vous parler du climat, un peu. Parce que c'est une question immédiate. C'est pas du tout pour la fin du siècle, hein. Il y a des récents événements météorologiques extrêmes qui démontrent l'urgence d'une refonte de nos sociétés et de nos modes de vie. Alors, il y a des philosophes qui en ont parlé dans Le Monde la semaine dernière, je crois, ou peut-être même il y a un peu plus, mais pas longtemps. Le cyclone Otis, par exemple, qui a ravagé fin octobre Acapulco, est passé en 24 heures de la catégorie 5. Oh, c'est de la catégorie 3 à la catégorie 5, c'est-à-dire qu'il est devenu épouvantablement violent en très peu de temps. Et début novembre, la tempête Ciaran a dévasté une part des côtes françaises et a étendu ses dégâts bien au-delà, à l'intérieur des terres. Même les tempêtes n'augmentent pas en nombre. Ces événements nous rappellent la violence du dérèglement climatique. Même si ce n'est pas tout de suite, c'est vraiment... ça nous arrive dessus d'un coup et on ne se rend pas compte. Non seulement absorbés que nous sommes par les conflits en cours, nous avons la tête ailleurs, mais en outre, notre façon de communiquer sur le climat contribue à détourner notre attention. Il faut absolument continuer à parler d'objectifs pour la fin du siècle, alors que nous sommes d'ores et déjà entrés dans le dur des événements extrêmes. Donc c'est inadéquat, il faut parler tout de suite de... C'est une question immédiate, le climat. Et non pas la fin du siècle. Les signaux d'un nouveau système climatique sont manifestes. Et l'objectif d'1,5 degré de réchauffement n'a plus de sens. Les températures globales moyennes actuelles sur 10 ans montrent que déjà on est à presque un 5. On doit être à un 2 ou 3. Et il faut absolument y penser. Fin octobre, les températures moyennes de l'année en cours étaient déjà supérieures de plus de 1,34. Voilà, ça vient un peu plus donc. Et c'est la moyenne des températures du XXe siècle et de par rapport au XIXe, ça va changer follement tout d'un coup. Donc il faut absolument rester vigilant et essayer de comprendre ce qui se passe et voir comment on peut lutter contre ça. Alors concernant l'ensemble des océans qui s'étendent entre les latitudes de 60 degrés sud et 60 degrés nord, la température moyenne de surface s'est élevée de près de 0,25 degrés par rapport à l'année précédente, à partir d'avril, alors que l'inertie thermique des océans est plus grande que celle des continents. Donc 0,25% en quelques mois, ça va représenter une sacrée différence sur la Terre aussi. Et puis les simulations récentes montre que la fonte accélérée de l'Antarctique apparaît irréversible, quel que soit le scénario envisagé. Donc cette fonte pourrait entraîner une hausse du niveau des mers de plusieurs mètres. Les rafales de vent des cyclones voient souvent leur intensité augmenter. Alors depuis la décennie 2020, les vagues de chaleur se produisent de plus en plus souvent. Et parfois, simultanément, alors que jusqu'au début de ce siècle, Les grandes canicules ainsi que les températures extrêmes étaient vraiment l'exception. Alors il apparaît depuis le début des années 2000 un phénomène inconnu jusqu'alors, c'est celui des pyrocumulonimbus, avec une montée croissante vers la stratosphère des aérosols engendrés. Bon, c'est très compliqué, hein. Ce type de nuage s'est élevé avec le méga-feu australien de l'été austral 2019-2020. Il s'est élevé jusqu'à 34 km d'altitude. C'est alors une surface forestière équivalent à la moitié de la superficie de la France qui est partie en fumée, emportant avec elle un reste de forêt primaire de 100 millions d'années quand même. Alors en 2023, c'est l'équivalent de la surface d'un tiers de la France qui a brûlé dans la forêt canadienne, selon les données du Canada interagencé. Ça change beaucoup, il faut se soucier de la chaleur humide aussi. À compter de 30 degrés, nous maintenons constante la température intérieure de notre corps par l'évaporation de notre transpiration. C'est un phénomène conditionné par la physique. Or, plus le taux d'humidité de l'air ambiant augmente, plus se réduisent nos possibilités d'évaporation et donc de rafraîchissement. on risque de souffrir. Il en va aussi pour l'ensemble des mammifères. Les plantes sont concernées également par ce phénomène appelé à affecter les aires géographiques de plus en plus vastes. Et tous les changements évoqués convergent vers un affaiblissement de nos capacités de production alimentaire. Pour ne considérer que le cas de l'Espagne, une sécheresse précoce au printemps 2023, a détruit les plants des céréales sur 3,6 millions d'hectares. C'est terrible. Et comme nous pouvons le constater, nous avons bel et bien changé de régime climatique et pourtant à peine plus de 1 degré de réchauffement global. Alors répétons-le, nous n'échapperons pas dès le milieu du siècle à un réchauffement de 2 degrés. Ça implique un doublement des effets observés actuellement. Et au lieu de regarder que la fin du siècle, eh bien, préparons-nous. Essayons de nous préparer, en tout cas. C'était un article du Monde sur le climat, est une question immédiate. Moseka.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old. I speak on behalf of Climate Justice Now. We have to speak clearly. Climate justice now. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. Now we probably don't even have a future anymore. Because that future was sold so that a small number of people could make unimaginable amounts of money. It was stolen from us every time you said that the sky was the limit and that you only lived once. You lied to us. You gave us false hope. You told us that the future was something to look forward to. Children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. There is very much talk and no action. We are the ones who are going to live with the consequences. We need to show that we will not accept this anymore. We will not let old generations keep risking our future. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. We children are doing this because we want our hopes and dreams back. Whether you like it or not. We want our hopes and dreams back. We want our hopes and dreams back.
Asian Dub Foundation avec Greta Thunberg, c'est le titre You Squirk. Vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Bon, on va pas se quitter sans mettre un pied dans l'art quand même. Enfin, dans l'art, dans tout ce qui est... Oui, dans l'art. Je voulais vous parler du dernier Miyazaki, Entre deux mondes, le garçon et le héron. J'espère que ça n'en est pas déjà parlé. Non, peut-être pas. Bon, ce film, c'est un film d'animation japonais, Miyazaki forcément, et c'est le papa de Totoro. Et ça faisait 9 ans qu'il avait rien fait. Il avait fait Le vent se lève, il y a 9 ans à peu près. Et là, il livre une synthèse de son œuvre en y ajoutant un élément qui est un petit garçon de Tokyoït, j'y arriverai pas, je le tourne dans tous les sens. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon de Tokyo, ça sera plus facile, de 11 ans, qui voit l'hôpital où résidait sa maman malade brûler sous les bombardements. Alors, il est réfugié, lui, à la campagne avec son père et la nouvelle compagne de celui-ci, et il s'isole dans le deuil qu'un héron agressif, doté de la parole, vient bousculer. Donc, c'est un dialogue entre un petit garçon et un héron. C'est magique. Alors, direction une tour abandonnée, abri de mondes parallèles. Miyazaki, qui a 82 ans, se souvient de sa jeunesse qui est marquée par la guerre et par la tuberculose de sa maman. Puis il nous plonge dans un multi-univers absolument vertigineux où hier et aujourd'hui dansent au bord du gouffre qui est à la fois fasciste et écologique. C'est très étrange, c'est imaginaire, complexe. Il y a un bestiaire foisonnant, il y a des cousinages étranges comme le roi et l'oiseau, la divine comédie, il y a des richesses symboliques comme Oedipe roi. Eh bien, le garçon et le héron, c'est un film qu'on pourrait dire à deux têtes. C'est l'enfance et le crépuscule d'une vie, la finitude et l'espoir, l'expérience douloureuse des belles choses et la renaissance dans le chaos. Voilà, c'est un très très grand voyage et c'est un film merveilleux. Allez voir Le garçon et le héron de Miyazaki. C'est un film d'animation japonais qui dure à peu près 2 heures, je crois. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis arrivée un peu en retard, merci Fabien de ta patience aussi. Et à la semaine prochaine, les amis. Ciao.
Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite. Quand je vous baise dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre. Je lis dans mon lit, je suis littéraire. Je lis Carrère, j'écoute Macala, oui. Je mange du camembert, je fume du cannabis, c'est mon somnifère. Blablabla, bla, bla, etc. Patati patata, je viens du Canada, hey. J'aime les castors, mais à la frontière, je suis franchouillard, check mon passeport. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolay. Je raconte triolet. Votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps. Beaucoup de romans, beaucoup de films d'Yves Montand. Avec mon petit accent, si charmant. Et je comprends que je manque de maîtrise, mais heureusement, j'assume mes bêtises. Votre passé simple n'est pas si simple. Le mien est compliqué comme un labyrinthe. Yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert, je préfère lire des pentes. Beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans, mais je vous French kiss comme un vrai Céfran. François Mitterrand. Je vous French kiss avec ma langue française. Je vous French kiss en dansant la javanaise. Bien dans mes charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French kiss, éclair au chocolat. Je vous French kiss, pomme de terre, en robe de chambre, en robe de chambre comme Robespierre.
J'ouvre French Kiss.
L'hexagone, l'hexagonzales, Chili Gonzalexagone.